Pour ensemble la parole de Dieu, j'ai choisi de vous parler d'un sujet particulier. On n'a pas l'habitude de le faire, mais ça va se faire. Hein? Ça va le faire avec la grâce de Dieu. Le psaume 45. Psaume 45, le verset 7. On va lire jusqu'au verset 10 inclus. Je ne sais pas si c'est ce qu'on t'a donné. Voilà, mets-le vite pendant que je discute un peu. Qu'est-ce que je vais vous dire? Que je suis le plus heureux des hommes. Et vous dites, pas moi aussi. Pour les femmes, hein, moi aussi. Heureux de pouvoir servir le Seigneur. Heureux de lui être utile. Heureux de pouvoir tout simplement être rassemblé. Je disais tout à l'heure, et c'est vrai, de voir l'Église qui, de nouveau, eh bien, n'est pas à demi-jauge, mais jauge pleine. Hein. Amen. Voilà, c'est bon? Allez, il m'a fait signe. Alors, le psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Amen. On va parler un petit peu de cette huile de joie. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou vous vous souvenez, si certainement, dans vos lectures quotidiennes, vous pouvez le remarquer. Mais dans le cadre de l'Ancien Testament, puisqu'il s'agit de cela, les sacrificateurs au service du temple recevaient une onction d'huile. Amen. Une onction d'huile. Ce matin, j'ai fait l'onction d'huile à une sœur, parce que c'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il oint d'huile au nom du Seigneur Jésus. S'il a commis quelques péchés, il sera pardonné. Et puis, la foi du malade le guérira. Amen. Donc, il recevait une onction d'huile. Bien que son nom ne soit pas cité, ce passage nous parle déjà de Jésus, le Fils éternel de Dieu. Le Nouveau Testament démontre que notre Seigneur est ce souverain sacrificateur. Il est sans péché. Amen. Il n'a pas offert le sang d'un taureau ou d'un bouc, comme c'était recommandé, pour effectuer l'expiation des péchés ou des fautes de l'humanité. En effet, la Bible nous montre qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. C'est son sang qui a coulé sur le bois de la croix qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous présenter et entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la présence immédiate de Dieu. Amen. C'est parce que Jésus a choisi de mourir, de s'identifier à nous d'abord en venant sous forme humaine, mais ensuite d'aller jusqu'au bout, d'accomplir le plan de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me présenter devant Dieu. Que tu peux te présenter devant Dieu, que tu peux t'adresser à lui, non pas en cherchant un intermédiaire pour t'adresser à lui, mais directement parler, le supplier, le prier, mais également le bénir et l'élever. On le verra en conclusion. Amen. Alors, les différentes composantes de l'huile de ce psaume sont décrites. Il s'agit de la myrrhe, de la casse et de l'aloès. Ce sont des bois aromatiques, arbres ou arbustes pour certains. Parce que là, on tirait la résine, il y avait là un parfum odoriférant, un beau parfum, un bon parfum. Et j'aimerais voir avec vous la signification spirituelle de cela. Nous savons que le plan de Dieu, c'est un plan merveilleux. Et je disais tout à l'heure, la mort d'un innocent pour sauver des coupables. Ce n'est pas banal. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce qu'il a élaboré. Alors, quand je dis que le plan de Dieu est merveilleux, il ne consiste pas à amener des gens, tout simplement, et des croyants, à des croyances religieuses, mais il a pour but de nous transformer, de faire de nous de nouvelles créatures. Amen. De faire de nous, tout simplement, et de nous amener à devenir d'authentiques disciples, disciples de Jésus. Jésus est le maître, et le mot disciple veut dire élève. Donc je dois devenir l'élève du Seigneur. Amen. Et merci pour ce divin pédagogue qu'est le Seigneur. Alors, nous devons nous identifier à Jésus. Donc, c'est normalement le désir que nous devons avoir. Et nous devons également désirer marcher sur ses traces, suivre son exemple, en mettant en application eh bien, ce qu'il nous enseigne, hein, son enseignement, parce que nous devons lui ressembler de plus en plus. Amen. Nous devons lui ressembler de plus en plus. Nous sommes appelés également à être oints par la puissance du Saint-Esprit. Et notre vêtement de justice, c'est cela. Et le Seigneur, justement, nous en a revêtus. Mais ce vêtement de justice, eh bien, il doit être parfumé avec ces trois aromates, la myrrhe, la casse et l'aloès. Amen. Donc, on va parler un petit peu de la myrrhe pour commencer, après on parlera de la casse. Normalement, c'est dans le texte, c'est inversé. Mais je vous montrerai pourquoi. Tout à l'heure, on parlera de l'aloès en dernier. La myrrhe, d'abord, c'est un symbole fort. La myrrhe, c'est le symbole de la souffrance. Il est question déjà de celle du Seigneur. On le sait, il a souffert la mort sur le bois de la croix. Il a souffert dans le jardin de Gethsémané. Sa transpiration, c'était des grumeaux de sang. Il a souffert d'avoir été sur la croix séparé de son Père. C'est fort, eh oui. Quand je regarde un petit peu ce que dit Ésaïe 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Il a fallu que la grâce de Dieu soit puissante, soit efficace, pour que nous, qui l'avons dédaigné, méprisé, qui nous sommes moqués de lui, parce que moi je me suis moqué de lui, je ne sais pas vous, peut-être vous étiez déjà des saints, sans l'auréole, il vous fallait l'auréole en plus, mais en tout cas, moi j'ai levé le poing contre lui, je l'ai accusé, je me suis moqué de lui. Je suis pas le seul, bien sûr, mais aujourd'hui, je fais partie de ceux qui sont capables de parler de la souffrance du Seigneur, ayant souffert à des moments moi-même, pour le nom de Jésus, souffrant encore quelquefois aussi, eh bien parce que, eh bien, suivre le Seigneur demande des efforts, demande des fois des larmes, de tenir à genoux devant lui. Mais quel bonheur de pouvoir être identifié à Jésus. Quand on vous dit « Ah, Jésus, on me l'a fait !» Mais pour moi, quel bonheur. On m'identifie à Jésus alors qu'on croyait me blesser. On me faisait un bien extraordinaire. Vous vous rendez compte? Eh oui, le monde est capable de faire de choses semblables. En tout cas, la douleur de Jésus n'a pas commencé à la croix, ni à Gethsémané. Elle a commencé lorsqu'il a quitté la présence et la gloire de son Père pour s'incarner dans un corps humain. Ça a commencé là. Puis durant son parcours terrestre, Jésus a été régulièrement confronté à l'incrédulité, au rejet, au mépris, à l'indifférence, et cela de la part des hommes. À Gethsémané, je vous en ai parlé déjà, il a connu, je dirais, une solitude et une profonde détresse. Terrible. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver dans une profonde détresse, dans une solitude terrible? Personne ne voit ce que je vis. Personne ne me comprend. Il ne voit pas ce que je vis. Au lieu de rire devant moi, tu ferais mieux de pleurer avec moi. Vous comprenez? Mais Jésus a vécu des choses semblables. Ses disciples, n'ayant pas pu le soutenir dans son terrible combat, sur la croix, il a revêtu tout notre péché. Et c'est là qu'il a vu le regard de son Père se détourner de lui. Il a vécu cette séparation déchirante au point de s'écrier « Mon Dieu !» « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était terrible, ce que vivait Jésus. Certains vont dire qu'il était programmé pour ça. Jésus n'a jamais redouté ce moment, il le savait. Mais c'était terrible. Terrible de constater. Ceux qui l'ont acclamé hier, aujourd'hui le méprisent, le rejettent et l'insultent, se moquent de lui. On sait que Jésus est monté au ciel. Aujourd'hui, il est dans la présence de son Père. Cependant, croyez-vous qu'il ne souffre plus? Croyez-vous qu'il n'y ait plus de souffrance en lui? Moi, je dis non, je crois qu'il souffre encore. Lorsque ses yeux constatent l'état dans lequel se trouve le monde, mais également quelquefois la tiédeur et le péché de l'Église, moi, je crois que le Seigneur y pleure. C'est la fille de Billy Graham, suite aux événements du 11 septembre, qui était convoquée par la CNN pour une interview. Elle était sur le plateau, et là, bien sûr, les moqueurs étaient présents. « Alors, et votre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour les États-Unis ?» Et là, la fille de Billy Graham a eu des paroles qui ne mettent aucun doute dans son état de cœur. Elle a dit « Aujourd'hui, mon Dieu, il pleure. Il pleure parce qu'il y a des victimes. Il pleure parce que le fils ne verra pas son papa rentrer. Mais il pleure surtout parce que nous lui avons dit « Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous vivre comme nous voulons. » Nous l'avons chassé de nos écoles. Nous l'avons chassé de nos tribunaux. Aujourd'hui, on lui dit « Laisse-nous tranquilles, nous voulons vivre comme nous voulons. » Pour ça, elle a dit « Aujourd'hui, je sais qu'il pleure pour ça. » Amen. Oui, notre Dieu pleure. Pourtant, si nous regardons un petit peu, et c'est lié à notre vocation, à notre conversion, le chrétien est invité à être irréprochable. Je prends ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens, cette lettre magnifique. Philippiens, chapitre 2, verset 14, il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Amen. Nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes ses témoins. Nous sommes ses enfants. Alors je précise que la Bible fait la différence entre l'irréprochabilité et l'infaillibilité. En effet, nul n'est infaillible. Un papillon. Nul n'est infaillible. Vous ne trompez jamais, vous ? Infaillible veut dire sans faille, sans faute, sans péché. Il vous arrive de demander pardon parce que vous avez péché, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc on n'est pas infaillible. Par contre, lorsque le croyant pêche et qu'il se repent, qu'il confesse son péché et l'abandonne, là il démontre qu'il est irréprochable. Amen. Il ôte tout droit à l'adversaire. L'adversaire ne peut plus l'accuser. Mais il faut passer par là. L'abandon et la repentance. La reconnaissance, je me suis trompé. J'ai péché. Amen. C'est comme ça qu'on reçoit justement la délivrance et ensuite, eh bien, on peut être considéré comme irréprochable. Malgré la gravité de ses fautes, David a été qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez ce qu'a fait David ? Il est quand même à l'origine d'un meurtre, Uri, le Hétien. Il couchait avec sa femme. Ouais, pas net, le gars. Vous lui auriez donné, vous, une seconde chance ? Il a résisté à Dieu. Il a fait que le Seigneur lui envoie un prophète. Et quel prophète ? Qui raconte une histoire d'une brebis, une seule, qui était dans un foyer. Et cet homme l'a choyé comme si c'était son enfant. Et puis voilà qu'on vient lui dérober sa brebis. Il dit, ah, celui qui a fait ça, il doit mourir. Mais d'abord, il doit rendre le 4 brebis pour celle qui l'a prise. Ah ouais ? C'est bien. Regarde. Vous voyez ? David, tu pointes le doigt vers cet homme, mais il t'en revient trois. Parce que David, cet homme, c'est toi. C'est toi qui as péché. Mais je constate, et la Bible est claire là-dessus, que David a été qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Alors, il faut pécher pour être selon le cœur de Dieu? Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Mais il a reconnu, il a regretté amèrement et sincèrement ce qu'il a fait. Contrairement à un autre aussi élevé que lui, le roi Saül. Lui aussi était roi. 1 Samuel 13, verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, on y vient. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et si je vais un petit peu plus loin, 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. Après que Nathan lui ait parlé, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Amen. De plus, David aimait Dieu de toute sa force. Il l'aimait avec une grande intégrité. Et dans l'ensemble, finalement, si on regarde un petit peu à sa vie, on voit qu'il a cherché durant toute sa vie à plaire à l'Éternel. Amen. Il n'a pas été exempt de faute. Il était faillible. Mais il a su, quelque part, reconnaître ce qu'il était. Il a su être honnête devant Dieu. Amen. C'est important parce que, comme je le disais, il peut nous arriver de pécher, de nous tromper, de mentir. Mais il est important de s'approcher tout à nouveau du Seigneur à genoux et lui dire, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton pardon. Amen. L'Écriture évoque la possibilité de la souffrance également dans la vie de tout disciple. 1 Pierre chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Jésus dira également, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Alléluia. Alors bien sûr, il n'est pas question ce matin de faire l'apologie de la souffrance, d'établir également une nouvelle doctrine qui peut faire eh bien, son apparition de façon insidieuse et vicieuse, non. Une dérive de cette réalité consiste à croire, justement, qu'un bon chrétien doit énormément souffrir pour plaire à Dieu. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Une personne qui est venue nous rejoindre dans une église où nous étions pasteurs à ce moment-là m'a expliqué que dans le moment dans lequel elle était, si tu n'es pas dans la souffrance, si tu n'es pas dans l'épreuve constamment, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Nous avons vécu avec elle, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Elle me dit, Bernard, les progrès que je fais, mes yeux s'ouvrent de plus en plus, je comprends. Des choses qui pour moi étaient obscures. On peut être heureux. Alléluia. J'en ai des frissons. On peut être heureux avec le Seigneur. Oui. Je goûte au bonheur. Enfin, enfin, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Vous vous rendez compte? Ce qu'on arrive à enseigner, la souffrance fait partie de la vie des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a souffert. Il a dit que nous étions identifiés à lui, que le monde nous ferait souffrir également. Mais ça peut arriver, bien sûr. Hein. Alors, Pour bénéficier de ces bienfaits, on ne doit pas absolument tous les jours supporter des douleurs et de la souffrance, non. Des situations pénibles constamment, non. Ça peut arriver, ça arrivera. Et c'est déjà arrivé. On peut même arriver à considérer que le fait de subir des circonstances excessivement accablantes prouve que forcément on est approuvé de Dieu. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je regrette, j'ai des moments de paix dans ma vie. J'ai des moments où je m'éclate. Je suis heureux, heureux de vivre. Eh oui. Alors, ce n'est pas obligatoirement le cas dans toutes les situations, mais oui, on peut souffrir. Les chrétiens souffrent. Le chrétien est méprisé. Le chrétien vit des épreuves parce qu'il veut faire pleinement la volonté de Dieu. Et ce monde dans lequel nous vivons, il est en marge de la volonté de Dieu. Eh oui, c'est sûr qu'il arrive qu'on contrarie les autres. Et si on contrarie, on n'est plus approuvé. On est méprisé. On se moque. Eh oui. Un serviteur de Dieu se retrouvait avec un cancer de la gorge. Non fumeur, bien sûr. Hein. Précise. Hein. Mais le chirurgien, quand il a vu sur sa fiche, parce que le pasteur avait écrit, hein, pasteur, métier, etc. Et puis il lui dit, alors et votre Dieu là, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Parce qu'il venait voir justement un oncologue pour traiter son cancer. Hein. Ben, il a dit, mon Dieu, voilà, il fait que ce matin, je suis devant vous pour lui parler de son amour. Pour vous parler de son amour. C'est désarmant, hein. Quelqu'un qui devrait se lamenter, pleurer, et qui dit, ben voilà, je suis là pour vous parler de lui ce matin. Attendez, mais moi, je suis là pour vous donner un traitement, pour voir comment on va. Aujourd'hui, il est toujours vivant. Hein. Et ça fait au moins 20-25 ans hein, qu'il s'est présenté devant ce médecin. Et oui, parler du Seigneur. C'est le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est le rôle d'un enfant de Dieu. Amen. Alors oui, la myrrhe est donc et doit être présente sur le vêtement du disciple de Jésus. Je rappelle, symbole de la souffrance. Hein. Dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Prendre la croix. Chaque jour. Alors bien sûr, ce verset évoque l'aspect d'un renoncement volontaire à suivre, je dirais, les mauvais penchants de notre nature. Hein, il faut renoncer à cela. Et ce passage souligne également le choix déterminé de mettre en pratique tous les conseils de Jésus, même les plus difficiles, mais aussi de résister à la tentation, tout cela dans le but d'honorer le Seigneur. D'honorer le Seigneur. Eh oui, c'est le but, hein. Ces souffrances, nous le constatons, sont là directement liées à la foi, à l'engagement, dans l'amour bien sûr, à la préférence de la vérité, donc à la mise en pratique effective, hein, d'une manière pratique, de l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Et parallèlement, ce qui est formidable, c'est que même dans ces moments les plus difficiles, eh bien le Seigneur accorde sa paix, une paix extraordinaire, une joie excellente. Cette présence dont on a tant besoin, elle est là, son approbation. Oh, on est en paix. On est en paix avec soi-même. On est en paix avec Dieu. Amen. La deuxième, c'est l'aloès. Alors, l'aloès, c'est le symbole de la tente. Vous voyez, une tente. Qui nous parle de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur. Nombre 24, verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Jésus vit actuellement dans l'intimité et dans la présence parfaite de son Père. Amen. Pendant son passage terrestre, le Seigneur a été soumis, bien sûr, aux mêmes tentations, aux mêmes sollicitations que nous. Hein? Malgré cela, eh bien, il a vécu parfaite vie sans péché. Il ne s'est jamais corrompu, jamais souillé. Alors qu'il avait la nature divine, mais aussi la nature humaine. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et il a éprouvé le besoin de rechercher l'intimité de son Père, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Amen. Alors, lecture des évangiles, on trouve Jésus en train de voyager, de prêcher, de guérir, d'écouter, de prendre du temps avec la foule, avec ses disciples, de leur expliquer les Écritures. Mais on découvre également Jésus seul, dans la présence de son Père, dans la présence de Dieu. Amen. Matthieu 14, verset 23. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Seul. Avec Dieu, hein. Seul avec le Père. Je fais une confidence, j'ouvre une parenthèse. Quand je me suis converti, à l'église, on faisait ce qu'on appelle des longues veilles. Quand je me suis converti, donc la première longue veille est arrivée, oh, j'ai dit, j'aimerais être avec les chrétiens pour finir l'année, hein, 31 au 1er, hein, 31 décembre au 1er janvier. Oh, ce serait formidable que je sois avec l'église. Apparemment, en plus, il se passe des choses formidables ce soir-là. Ah, je vais être avec eux. Alors, je suis allé voir donc, le collègue qui avait posé son réveillon, hein, comme on dit. Et puis, bon, finalement, il a changé d'avis. Il m'a dit, OK, ben, je prends ma place. Ok. Deuxième année, oh, j'ai dit, je me suis tellement régalé l'an dernier, puis c'est formidable de finir l'année sous le regard du Seigneur, dans la communion fraternelle. Alors je suis allé donc demander à celui qui avait posé lui sa longue veille, quoi, son réveillon du jour de l'an. Et je ne sais plus comment je l'ai eu. Et puis ça a continué pendant 5 ans. On a fini par faire, puisqu'on était plusieurs à le vouloir, ce réveillon, finalement, dans les 3 dernières années, on a fait les petits papiers, on a fait courte paille, et puis je ne sais plus trop ce qu'on a fait. Et chaque fois, ça tombait sur moi. La dernière année, il y en a un qui s'est permis de dire, « Ouais, mais ce n'est pas du jeu contre toi. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. » Alléluia ! En tout cas, chaque fois, c'était moi, c'était encore témoin. Or, je disais quand même, dernière année, tu vas partir, en prochaine, tu seras à la tête d'une église. Et puis bon, finalement, comme j'ai vu qu'un gars qui avait toujours tout pour lui, qui était égoïste, qui voulait tout prendre et laisser les autres de côté, j'ai dit, s'y met lui, je m'y mets aussi. Et là, j'ai encore gagné. J'ai emporté la mise, comme on dit. Hein. Mais oui, le Seigneur me voulait avec lui, avec l'église. Amen. C'est tellement formidable. Alors, quand je dis que Jésus avait besoin de rechercher l'intimité avec Dieu, on le voit, il renvoie la foule, il monte sur la montagne, il prie, il est à l'écart. Marc, chapitre 1er, verset 35, il dit que vers le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Il avait besoin d'être dans l'intimité avec son Père, seul à seul avec son Père. Luc chapitre 6 verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Le psaume 73 verset 28, c'est Asaph qui dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Amen. Et enfin le psaume 105 verset 4, c'est David. Hein, lui le faisait, mais également il veut inciter Israël à prendre le temps devant Dieu. Il dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Amen. Nous devons rechercher l'intimité avec Dieu, hein, de la même façon. Nous sommes conviés au travers de l'organisation de toutes nos journées à privilégier un moment pour rechercher tout simplement le Seigneur. Un moment pour méditer sa parole. Un moment pour nous adresser à lui dans la prière. Amen. Puis également rechercher la communion fraternelle. Amen. On est bien ensemble. Hein? On est bien ensemble? Alléluia. En tout cas, il est préférable de consacrer quelques minutes, je dirais, assidûment dans la prière, un moment spirituel, à communion également spirituelle, plutôt que de vivre ses envies et d'être irrégulier dans cette recherche. Beaucoup de choses passeront avant. Il faut une discipline. Voilà, c'est le temps de Dieu. Amen. Alors pour cela, bien sûr, il est nécessaire d'accepter des notions d'effort, je vous disais, de discipline, d'abnégation, et dans l'attente d'une envie naturelle, je dois passer mon temps, ce temps-là, devant le Seigneur, avec le Seigneur. Eh oui. Si les difficultés sont rencontrées, il va être important de savoir persévérer dans une attitude de foi et dans l'espérance confiante de l'action du Seigneur. Parce que la Bible le dit, Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. S'il me voit peiné parce que je n'ai pas eu ce moment avec lui aujourd'hui, demain il permettra que je le double. Mais je retiens la leçon et après-demain, j'ai ce temps devant lui. Après-demain, encore ce temps devant lui. Amen. Une remarque également, l'intimité avec Dieu n'est pas seulement un moment mis à part avec le Seigneur, parce que c'est avant tout, je dirais, un état d'esprit et un état de cœur. Un état de cœur. La volonté de développer dans sa présence une communion personnelle avec lui. C'est pas, ça ne va pas aller jusqu'à malheur à moi parce que je n'ai pas pris le temps de... Mais j'ai une douleur. Faut que je m'arrête. Je me mets sur le côté et puis voilà, je débranche tout. Et je prends ce moment avec lui. Amen. C'est important. Un état d'esprit, mais surtout un état de cœur. La troisième, c'est la casse. Je vous ai dit que tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. La casse, le symbole de la louange. Amen. Dans le ciel, nous aurons certainement un programme étoffé, mais une grande partie du temps va être réservée à la louange. Amen. Elle est une des raisons de vivre du chrétien et, je dirais, un des buts de nos cultes. Nous sommes venus pour adorer, louer, élever le nom du Seigneur. Amen. Ne vous privez pas. Quand vous venez le dimanche matin, il faudrait qu'il y ait un feu là au milieu. Là. Chaque prière, chaque louange, chaque adoration, embrasse le feu un peu plus fort. Alléluia. On met de l'huile. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque Israël revenait à l'Éternel, avec une attitude authentique d'humiliation, parce que on l'a appelé, on l'appelle encore le peuple courède. Difficile, hein? Eh bien, on relève deux grandes caractéristiques. D'abord, la repentance. Il s'humiliait devant Dieu. C'était un cœur sincère qui s'humiliait devant Dieu, qui se repentait. Mais ensuite, c'était suivi de la louange. Amen. C'est-à-dire de l'élévation du Seigneur. Et lorsqu'on vient aux réunions, eh bien, il est nécessaire d'avoir la foi pour recevoir une bénédiction, une guérison, un bienfait particulier, parce que le Seigneur, lui, il désire nous accorder ces bonnes choses. Vous êtes venu ce matin, souffrant, en disant, Seigneur, tu vas me bénir, tu vas me visiter, tu vas me guérir, je vais partir de ce lieu. Ah, guéri. Vous n'êtes pas venu comme ça. Mais si. C'est quand le peuple se réunit que Dieu envoie la bénédiction sur lui. Dans le prochain rassemblement, quand vous venez, venez avec l'intention de recevoir. Vous allez vous préparer, vous allez demander, et vous venez avec l'intention de recevoir, le désir de recevoir, de réjouir le cœur de votre Dieu parce qu'il verra la foi chez vous. Amen. Sans que personne ne sache. La femme atteinte de perte de sang, personne ne savait. Et il l'aurait renvoyé, hein, il l'aurait empêché de passer. Hein. Il ne fallait pas qu'elle touche le Seigneur. C'est arrivé également une sœur en Algérie. Hein. Elle est rentrée dans un lieu, une réunion, première fois. Elle a entendu le message de l'Évangile. Le pasteur prêchait sur la guérison divine. Il prêchait sur la femme atteinte de perte de sang. Et elle, c'était son problème. Depuis des années, ça durait. Sur sa chaise, elle n'a rien dit à personne. Elle a dit, Seigneur, tu me guéris. Tu me guéris maintenant. Elle a cru. Et elle a été guérie instantanément. Amen. Elle a loué et béni le Seigneur parce que c'est cela. Alléluia. Bien sûr, attention, ne pas tomber dans la pensée, je dirais, erronée d'être présent seulement afin de faire le plein. J'ai entendu ça. Moi-même, je l'ai dit. Allez, viens, tu feras le plein. Au moins, dans la semaine, tu seras tranquille. On vient que pas que pour ça. Hein. On vient élever le nom du Seigneur. Et que notre motivation soit également d'apporter notre louange, notre adoration, la joie, la paix, le bonheur, la bonne humeur. Seigneur, tu es magnifique. Que j'aime ton Église, j'aime ton peuple. Chacun, c'est l'objet de ta grâce. Amen. Eh oui. Alors, il est important, bien sûr, de se poser certaines questions. Et quand je viens, qu'est-ce que j'offre au Seigneur pendant ce culte? Qu'est-ce que j'ai offert au Seigneur pendant ce culte? Qu'est-ce que j'ai offert à Dieu? Qu'est-ce que j'ai offert aux autres? Eh oui, c'est important. Dans quel état d'esprit ma louange a-t-elle été apportée? Est-ce que je n'ai pas de calcul derrière? Là, j'ai dit ça, mais non, non. Le Seigneur a-t-il agréé ma louange, mon adoration, ma prière? Vous savez, on peut toujours mettre en avant les nombreux obstacles qui vont empêcher, je dirais, l'expression de la louange. Seulement, par exemple, attendre d'être que l'Église soit plutôt la perfection absolue. Quand l'Église sera parfaite, j'apporterai ma louange là au milieu. Également, Seigneur, tant que j'ai des soucis, je ne peux pas t'adorer. Je le comprends, hein. Si vous saviez l'écouter, vous direz non, je ne comprends pas. Eh oui. Mais demeurer dans une attitude de reconnaissance va conduire justement à patienter très longtemps. Quand je serai parfait, Seigneur. Parfait, tu ne seras jamais. Au regret de vous le dire, hein. Mais c'est la vérité. On est dans un monde imparfait. Eh oui. Alors on peut inversement oser relever un défi. Eh bien, celui tout simplement de louer Jésus indépendamment du contexte dans lequel on va se trouver. Là, c'est autre chose, hein. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Vous allez me dire, c'est normal, c'est les serviteurs de Dieu. Attendez. Et les prisonniers les entendaient. Ah, mais ils étaient au contact de prisonniers. Ben oui, ils avaient été arrêtés pour le nom de Jésus. Ils étaient en prison, dans la prison de Philippe. Ben oui, ils étaient là. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia! Si ça avait été des chants du genre de « Seigneur, c'est pas juste !»« Mais Seigneur, c'est pour toi qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait dans ce lieu ?» Il y avait un hôtel qui nous attendait là, en 4 étoiles. Qu'est-ce qu'on fait dans cette prison? Non, non, pas du tout. Seigneur, quelle grâce de souffrir pour toi! Alléluia! Quel bonheur d'être persécuté pour ton nom. Waouh! Ça nous fait redescendre un peu, hein? Mais ça doit être notre niveau. Vous comprenez ou pas? Oui, c'est cela. Mais quel résultat! Tout à coup, il se fait un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison sont ébranlés. Ça a dû bouger, hein? Au même instant, toutes les portes s'ouvrent. Les liens de tous les prisonniers sont rompus, tous. Je ne sais pas si vous connaissez le texte et le contexte dans lequel c'est écrit, mais pas un ne s'est échappé. Tous sont restés parce qu'ils voulaient continuer à les entendre parler. Hein. Paul et Silas, mais ces hommes nous parlent de quelque chose de nouveau. On a besoin d'entendre ces choses-là. Amen. Amen. Ah oui. Alors, pour développer efficacement notre louange personnelle, eh bien, nous devons veiller à ce que nos moments, nos prières, bien sûr, ne soient pas uniquement des demandes. Amen. Et des requêtes. Mais dans ma prière, j'ai aussi des moments d'action de grâce. Alléluia. Des moments de remerciement pour ce que Jésus est, pour ce qu'il fait. Amen. Parce qu'il en fait des choses. Souvent à notre insu. Hein. Il nous dit que des fois, il envoie des anges pour nous garder. Et vous arrivez à dire, c'est un ange, lui ? C'est arrivé... Et aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, mais à l'époque, il ne l'était pas, puisqu'il fallait qu'il soit convaincu. Je crois que c'est à la gare de Sarajevo qu'il était. Il est missionnaire aujourd'hui, hein, il est américain. Il était en Europe. Sa famille était convertie, sa famille appartenait au Seigneur, vraiment, aux États-Unis, mais lui, pas. Et le Seigneur lui a dit, écoute, va dans la gare de Sarajevo, et là, un Américain te parlera. Oh. Amérique, c'est de ce côté, Sarajevo, c'est de là-bas. Hein. Lui, je crois qu'il était en Allemagne, je ne sais plus trop quoi. Non, c'est le serviteur de... Non, même pas, c'est là, voilà, c'est là. Et il est dans la gare de Sarajevo, parce que le Seigneur lui avait demandé, ou ça faisait partie de son voyage, donc à Sarajevo, un Américain te parlera de moi. Ou un homme te parlera de moi. Il est dans la gare de Sarajevo, quelqu'un s'approche de lui et lui parle de Jésus. OK ? Ça peut arriver, hein ? Concours de circonstances, Inch'Allah. Non, pas du tout. Parce que le temps qu'il se retourne, cet homme avait disparu. Et je pense que certains ont hébergé des anges sans le savoir. Amen. C'est ça. Dieu fait ce qu'il veut. Alors, parlons de remerciement, d'adoration. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous ? Grand. Ma petite fille, elle le fait. Tu m'aimes comment ? Comme ça. Pas petit, hein ? J'ai fait petit comme ça. Grand comme ça. Ben oui, parce que c'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. Il n'est pas limité comme nous. Le poète et romancier Lamartine a dit ceci, aimer, prier, chanter, voilà toute ma vie. Alléluia. Alors quand la prière est orientée vers la louange, déjà on évite de regarder à ce qu'ont les autres. Seigneur, je te bénis de ce que je suis aujourd'hui. Voyons, on ne voit pas l'autre à côté. Mais aussi, également, quel bonheur de pouvoir repasser dans sa mémoire tout ce que le Seigneur a déjà fait. On contemple plutôt la présence de Jésus, l'œuvre également réalisée par le Seigneur dans notre vie, quand on prend le temps de le louer, de le bénir. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la prière devient un moment d'adoration qui élève Dieu. Ce n'est pas seulement composé de moments particuliers, mais c'est aussi, je dirais, une habitude de cœur. Une habitude de cœur. Seigneur, je veux te glorifier. Je veux que ma vie t'élève. Amen. Alors oui, que la casse soit abondamment répandue sur notre vêtement. Amen. La casse. On a vu la mire, hein, la souffrance. On a vu quoi également ? L'intimité. Mais n'est-ce pas le résultat justement de l'aloès bien présent dans notre vie ? Hein ? Qui fait que la casse, l'adoration, la louange est bien présent dans notre cœur et dans notre âme. Amen. Que le Seigneur, non pas vous bénisse, mais qu'il continue de vous bénir. Alléluia. Qu'il continue de vous faire du bien. Qu'il continue finalement de se glorifier dans notre vie. Alléluia. On se lève ensemble, vous voulez bien ? On va le remercier. T'es plus chante? T'es ici? Venez. Venez. Pas tout le monde, hein? Que les chantres. Que les chantres. Voilà. On va fermer nos yeux, vous voulez bien? Seigneur, tu nous as laissé ta parole et combien elle est extraordinaire. Apprends-nous à plonger nos regards. Non pas à la lire superficiellement, mais vraiment à plonger nos regards dans ta parole, afin de vraiment pouvoir contempler tout ce que tu nous dis, pouvoir l'accepter également de cœur, pour pouvoir élever ton nom. Amen. Parce que tu es vivant, parce que tu es celui qui vit en nous, parce que dans ta grâce, tu nous as déjà tout donné. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Sois béni. Tu visites ton peuple, Seigneur, non pas ce matin, mais demain, après-demain aussi. Alléluia. À toi la louange et la gloire, Jésus. Amen. Amen.